Il n'y a aujourd'hui ni tournant, ni changement de cap ou de politique.
Ce résultat est historique. Je suis la candidate du peuple.
Philippe Le Caplain.
Le décryptage de la vie politique en France, c'est maintenant dans RFI. Et c'est avec vous, Nicolas Tinzer. Bonsoir.
Bonsoir.
Politologue, enseignant en Sciences Po, directeur de la publication de la newsletter et du site Desk Russie. On ne pouvait pas mieux tomber ce soir pour vous accueillir. L'Ukraine qui perturbe la présidentielle. Preuve en est, les traditionnelles émissions politiques à la radio et à la télévision ont cédé bien souvent la place à de nouvelles éditions spéciales aujourd'hui. Hier, le président de la République, lui, n'a fait qu'une apparition au salon d'agriculture, alors que le contact avec le monde agricole aurait participé à l'annonce imminente de sa candidature.
La guerre revient en Europe et nous nous voyons aujourd'hui dans un contexte inédit, grave et historique.
Emmanuel Macron qui annonce ce soir un nouveau conseil de défense demain à 11h. Et puis il a consulté les anciens présidents que sont Nicolas Sarkozy, dont Éric Zemmour demande ce soir qu'il soit désigné émissaire pour la paix pour négocier un cessez-le-feu en Ukraine. Et François Hollande, lequel n'a pas été tendre à sa sortie de l'Élysée devant le micro de RFI.
Ce qui a été dit hier n'est pas suffisant, à la fois sur le système monétaire, sur le système financier, et aussi sur l'approvisionnement en gaz. Oui, ça sera plus coûteux, et notamment pour nos amis allemands, de plus approvisionner en gaz russe. Mais comment aller justifier qu'on continue à acheter du gaz russe quand la Russie intervient militairement dans un pays indépendant? Voilà, ce que l'Europe doit faire, c'est se faire respecter. Il n'y a pas de diplomatie sans rapport de force.
Et puis l'ancien président pense que la campagne ne va pas être empêchée, mais qu'elle va être contrainte avec des débats sur les questions internationales bien davantage que sur les sujets économiques et sociaux. Alors gestion de crise, sanctions, conséquences économiques, la guerre en Ukraine bouleverse résolument la campagne électorale en s'imposant aux candidats, Nicolas Tinzer.
Oui, bien sûr, mais parce que tout simplement il y a une urgence absolue. C'est que c'est la France, le sort de la France, le sort de l'Europe, le sort du monde, même d'une certaine manière, et je n'exagère pas, qui est en jeu. Aujourd'hui, je veux dire, c'est notre guerre. C'est notre guerre à nous Français, à nous Européens. Cette guerre contre l'Ukraine est une chose abominable et il faut effectivement nous tenir aux côtés de l'Ukraine. Il n'y a pas de choix, il n'y a pas de... Je dirais, il n'y a pas de milieu, il n'y a pas de voie moyenne. Je veux dire, quand on est attaqué de cette sorte, et ce sont les valeurs européennes, les valeurs que nous représentons qui sont attaquées, encore une fois, ça passe au-dessus de tout le reste. Et les petits jeux politiques, les petites phrases, même les débats de politique intérieure, aussi importants soient-ils, passent nécessairement au second plan.
Peut-on craindre une campagne escamotée, même si le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, assure aujourd'hui qu'on ne se passera pas d'un débat démocratique, qu'on trouvera les moyens pour qu'il puisse se tenir?
Oui, bien sûr qu'il y aura des débats démocratiques. Il y aura nécessairement à un certain moment des débats entre les candidats qui seront retenus par le Conseil constitutionnel, c'est-à-dire qui rempliront les conditions pour concourir, bien sûr. Mais c'est vrai qu'il est aussi évident qu'il y a une hiérarchie des enjeux. Et que quand c'est notre existence même qui est menacée, ce sont nos libertés fondamentales qui sont menacées par un pouvoir criminel et dictatorial, celui de M. Poutine, c'est vrai que, voilà, on peut penser que des sujets ou des polémiques sur certains sujets de société, sur des petites phrases, sur des petites mesures, ça devient un peu vain. Alors en même temps, il y a des programmes. Après tout, les candidats ont des programmes économiques, sociaux. C'est important, évidemment, qu'ils soient clairs pour l'ensemble des électeurs. Il faut aussi qu'ils se prononcent là-dessus, pas uniquement, bien sûr, sur les actes de guerre. Mais là, c'est vrai qu'au moins sur ce sujet, je pense qu'une union nationale est totalement nécessaire.
Alors dans ce contexte, Nicolas Tinzer, qu'en est-il de la déclaration officielle de candidature d'Emmanuel Macron? Le chef de l'État sortant n'avait cessé de la repousser. De mettre des horloges, n'est-il pas aujourd'hui, bah, tout simplement, coincé, cette annonce est devenue un véritable casse-tête pour lui, sachant que la date butoir, c'est le 4 mars, c'est vendredi prochain.
Oui, bah écoutez, je pense que Emmanuel Macron, effectivement, se déclarera candidat, voilà, peut-être à la dernière minute. Je ne suis pas du tout sûr qu'il fasse une déclaration solennelle, évidemment ce sera son choix. À cette occasion, peut-être ce sera juste quelques mots, ce sera peut-être juste un communiqué bref, parce que c'est vrai que il ne peut pas y avoir de solennité aujourd'hui autre que celle de la guerre. Donc je pense que ce sera sous une forme modeste, sous une forme dramatique, peut-être sous une forme indirecte. Mais bien sûr, le président se déclarera, je pense.
Vous écoutez Dimanche Politique sur RFI. Cette guerre en Ukraine met également en difficulté trois candidats, Marine Le Pen, Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon, qui, s'ils ont condamné l'invasion russe, restent sous le feu de critiques pour des déclarations pro-russes par le passé. C'est ce que pointe Damien Abad, le chef de file des députés Les Républicains.
Monsieur Zemmour, Madame Le Pen et Monsieur Mélenchon, qui se sont en partie disqualifiés dans ce match présidentiel parce qu'ils ont aligné la position de la France sur les intérêts russes. Je reproche aux trois d'avoir considéré que M. Poutine n'était pas un danger.
Éric Zemmour qui a condamné l'invasion de l'Ukraine, mais qui a ajouté ceci.
Les Occidentaux ont une responsabilité dans l'escalade de la violence à l'Est. Ils doivent comprendre les revendications russes contre l'expansion de l'OTAN.
Dans la majorité présidentielle, Olivier Becht, patron des députés Agir, a conseillé tout à l'heure à Valérie Pécresse de balayer dans son propre camp, rappelant que son lieutenant Éric Ciotti prenait ces derniers mois une sortie de la France du commandement intégré de l'OTAN et un rapprochement avec la Russie. Autrement dit, très clairement, Nicolas Tinzer, l'Ukraine devient un enjeu de politique intérieure.
Oui, tout simplement parce que c'est un enjeu national et qu'il y a une question de patriotisme, c'est-à-dire quel que soit le candidat, on attend à un certain moment que d'abord il défende les intérêts de son pays et aussi plus fondamentalement les intérêts liés à la déclaration des droits de l'homme, aux valeurs européennes. Et là, effectivement, on a vu depuis un certain temps déjà, c'était présent d'ailleurs, pas uniquement depuis les quelques derniers mois, mais lors de la campagne présidentielle précédente, un certain nombre de candidats ayant des... disons pour Poutine les yeux de Chimène, pour être très euphémisant. Alors bien sûr Madame Le Pen, bien sûr à l'époque M. Fillon, et c'est à raison qu'il a été rappelé tout à l'heure que quand même une bonne partie des Républicains avaient une attitude d'apaisement envers la Russie. Mélenchon, bien sûr depuis longtemps, même s'il y a eu un petit revirement ces derniers jours quand même qu'il faut noter, mais qui quand même n'a jamais condamné les crimes de guerre de M. Poutine. C'est une guerre, quand même. Il faut rappeler cela. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a entendu Éric Zemmour. Éric Zemmour est complètement aligné sur la Russie de Poutine, donc il reprend totalement les éléments de langage. Là, la question, encore une fois, c'est le patriotisme. On demande à tous les candidats, quel que soit leur choix par ailleurs, économiques, sociaux, etc., qu'ils soient fidèles aux alliances fondamentales de la France, alliances évidemment atlantiques et l'Union européenne.
Vous parliez de Marine Le Pen, elle a été reçue au Kremlin en 2017 et son parti, alors le Front National, avait bénéficié, c'était en 2014, d'un prêt d'une banque russe. Et vous citiez François Fillon, il siégeait au conseil d'administration du géant de la pétrochimie Sibur et Zarubnest, entreprise spécialisée dans les hydrocarbures. Il faut employer l'imparfait car l'ancien Premier ministre vient de démissionner. Ça veut dire qu'il y a malgré tout une tradition dans la classe politique française à droite d'avoir des liens avec la Russie.
Bien sûr, à droite, pour une partie de la gauche aussi d'ailleurs, hein, bien sûr, faut également le rappeler, on a eu aussi un certain nombre de personnalités, alors c'était peut-être sous une forme beaucoup plus douce, une forme plus compréhensible, enfin, qui ont montré quand même envers ce régime-là aussi une forme de mansuétude, y compris certains anciens ministres d'ailleurs, de droite comme de gauche, et pas uniquement M. Fillon, quand même, et je crois que ça c'est un vrai poison de la vie politique française, comme c'est un poison de la vie politique allemande et italienne. Hein. Je veux dire, il n'y a pas que la France, bien sûr, qui est concernée. C'est qu'il y ait quand même des gens qui sont prêts, pour des tas de raisons, soit idéologiques, soit tout simplement d'intérêt pécuniaire, à remettre les valeurs fondamentales sous le poisson et à fermer les yeux sur des violations fondamentales.
Hein. Alors il y a la guerre et il y a les conséquences de la guerre, c'est-à-dire les réfugiés qui vont, qui actuellement d'ailleurs passent la frontière polonaise notamment. Stopper la guerre, stopper Poutine, de Berlin à Prague en passant par Vilnius et Athènes, une marée humaine de plusieurs centaines de milliers de personnes aux couleurs jaunes et bleues de l'Ukraine a défilé en Europe pour dénoncer cette invasion. Réunion également en France, manifestation en France. Et Thierry Breton, le commissaire européen au marché intérieur, qui était au grand rendez-vous d'Europe 1.
C'est un exode. Tous les pays européens accueillent aujourd'hui, que ce soit la Roumanie, la Hongrie, la Pologne, tous ceux qu'on a pu entendre s'exprimer différemment du reste, en d'autres temps. Mais ils sont tous présents et unanimes pour accueillir à bras ouverts ces malheureux qui viennent évidemment avec l'espoir de venir temporairement Ils ont tous l'espoir de revenir dans leur maison qu'ils abandonnent.
Et en France, la solidarité s'organise déjà, même si l'accueil de réfugiés est une compétence de l'État. Des maires des communes veulent permettre aux familles qui fuient la guerre de s'installer chez eux. C'est le cas de Laval qui compte 50 000 habitants. Pour le maire, Florian Bercot, c'est un devoir républicain.
Je crois qu'on se doit d'être humaniste et solidaire avec le peuple ukrainien, comme nous l'avons fait pour les familles afghanes. Nous, on est vraiment dans une philosophie d'accueil et pas simplement de solidarité de court terme, mais avec une volonté d'accueil et d'intégration avec d'abord les sécurités essentielles de base, sécurité alimentaire avec les associations qui fournissent des denrées alimentaires, sécurité par le logement et ensuite sécurité et intégration par l'emploi. Et ça, c'est vraiment essentiel pour que ces familles puissent pleinement s'épanouir dans nos villes en attendant la paix retrouvée dans leur pays.
Propos recueillis par Stéphane Duguet de RFI. Nicolas Tinzer, la question migratoire finalement se repose, non venant du sud, mais de l'est désormais.
Oui, mais elle se repose dans des termes clairs que Thierry Breton et le maire de Laval ont bien définis. C'est un devoir d'accueillir ces personnes. Je rappellerai quand même que les Ukrainiens se sont battus au nom de l'Europe, au nom des valeurs européennes. Ils ont été le front avancé de défense de l'Europe contre l'agresseur que représente le régime de M. Poutine. C'est encore plus un devoir de les accueillir parce que finalement, nous ne sommes pas battus, ils se sont eux battus pour nous.
Nicolas Tinzer, merci pour ces commentaires, ces analyses qu'on retrouve bien évidemment dans votre newsletter et votre site internet qui s'appelle Desk Russie. Merci d'avoir été l'invité de Dimanche Politique ce soir sur RFI.